Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une semaine de Tête au Carré. Jusqu'où l'informatique bouleversera-t-elle nos sociétés? Comment algorithmes, données, machines et réseaux changent radicalement notre façon de penser, transforment en profondeur nos organisations et donnent à ceux qui les comprennent et les maîtrisent de prodigieux pouvoirs? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Gérard Berry, professeur au Collège de France et médaille d'or du CNRS. Il vient de publier aux éditions Odile Jacob l'hyperpuissance de l'informatique. Un livre qui permet de prendre toute la mesure de la révolution informatique qui est à l'œuvre. Pour adresser vos questions à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Et cette semaine, c'est Agnès Fèvre qui s'occupe de la une de la science. Bonjour Agnès.
Bonjour Daniel.
Alors aujourd'hui, vous vous intéressez à la sécheresse qui frappe le sud de la France.
Oui, voilà des semaines qu'ils attendent la pluie en Provence ou en Corse. Le paysage est jauni par la sécheresse, les rendements sont en berne. Et ce phénomène est bien parti pour être de plus en plus fréquent. On en discute avec le climatologue Philippe Drobinski.
Vos questions, vos réactions sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisé par Céline Hilla et préparé par Sophie.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Bonjour Gérard Berry.
Bonjour.
Dans votre livre « L'hyperpuissance de l'informatique » aux éditions Odile Jacob, vous indiquez que l'impact de l'informatique n'a vraiment commencé qu'autour de 2000. Moi, j'imaginais ça un peu plus ancien. Pour vous, c'est vraiment là que l'histoire a commencé?
À peu près à cette période, c'était vraiment l'Internet en très grand et aussi une informatisation des objets en très grand. C'est à peu près, oui, vers les années 2000, et j'aime bien mettre la frontière à l'année 2000. Les enfants voient vraiment la différence, ils sont nés avant ou après l'informatique.
Ouais. Ça veut dire que la révolution informatique ne fait que commencer, si les effets ne sont perceptibles que depuis l'an 2000.
Alors certains effets étaient perceptibles avant, mais les effets partout ne sont perceptibles que plus en 2000. Oui, elle ne fait que commencer, mais elle va durer très longtemps, comme a duré la révolution des transports. Hein.
Mmh. On a mis du temps en France à prendre la mesure de cette révolution en marche.
Oui, on a attendu bien après les années 2000, oui. Plutôt dire, plutôt les années 2013-14.
Ouais. Donc on va essayer de rattraper ce retard avec vous dans cette émission. L'informatique, ses fondements, ses applications et la révolution qu'elle représente. On vous retrouve tout à l'heure, Gérard Berry, pour en parler. Et les auditeurs peuvent d'ores et déjà vous adresser leurs questions via la page de l'émission sur franceinter.fr. À la une de la science, aujourd'hui, quand la pluie ne vient pas et fait des dégâts dans le sud-est de la France.
Toute la journée, les flammes ont parcouru les sous-bois. À la mi-journée, quatre canadaires sont venus épauler les hommes au sol. Sur deux foyers entre Guisonne et le col de Verde, ils sont 160 à combattre les flammes. Forestiers sapeurs, pompiers du 10, de B ou de l'Hérault. Pour accéder au premier foyer, ils ont dû tirer plus d'un kilomètre et demi de tuyaux. Pour l'instant, le feu n'est toujours pas fixé.
Extrait d'un reportage de France 3 diffusé samedi soir. Des centaines d'hectares de forêts ou de maquis ont déjà été détruits par le feu en Corse ce week-end. Une répercussion de la sécheresse exceptionnelle qui sévit dans le sud-est de la France. De l'Hérault à la Corse en passant par les Alpes de Haute-Provence. Le niveau des précipitations a chuté depuis 6 mois. Météo France parle d'une sécheresse record. Et Agnès, pour en parler, nous sommes avec un spécialiste du climat.
Philippe Drobinski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du laboratoire de météorologie dynamique et directeur de recherche au CNRS. Et avec nous aussi, comme chaque lundi, Hervé Kempf du quotidien de l'écologie Reporter. Bonjour Hervé.
Bonjour Agnès.
Alors pour commencer, dites-nous, en quoi est-elle exceptionnelle cette sécheresse?
Eh ben, on va peut-être commencer par dire qu'il n'y a pas deux mondes. Celui où l'on parle de modèles climatologiques, de rapports du GIEC, de taux élevés de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Je vous rappelle qu'il a à nouveau dépassé un record en 2016. Et puis un monde où l'on vivrait au quotidien et où rien fondamentalement ne changerait. Eh bien non, il n'y a pas deux mondes, c'est le même monde. Et on l'observe en ce moment dans le sud de la France. Les relevés pluviométriques y sont effrayants. Il n'y a presque pas plu depuis le début de l'année en Corse, en Vaucluse, en Alpes-Maritimes et j'en passe. Météo France nous dit qu'il s'agit de la sécheresse la plus importante jamais mesurée à cette date depuis 60 ans de mesure. Les conséquences sur l'agriculture sont évidentes, qu'il s'agisse d'olives, de châtaignes, de vignes, d'agrumes ou simplement de fourrage. Et on ne sait pas ce que donnera le cru de 2017 pour les Côtes de Provence. Mais le plus inquiétant de tout cela, en fait, c'est que cette situation qui nous paraît exceptionnelle et qu'il est encore, risque fort d'être la normale en 2050. Selon plusieurs climatologues.
Philippe Drobinski, il y a toujours eu des épisodes de sécheresse en France. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tous ces records énoncés par Hervé? C'est plus intense? Ça dure plus longtemps?
Ah oui, le signal sur sur les températures, sur la pluviométrie, est clair depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Tout simplement, les canicules les plus intenses, on les retrouve dans les 20 dernières années, et elles s'enchaînent. C'est la séquence, en fait, de ces événements de pluviométrie réduite et puis donc de sécheresse. Alors, il faut juste positionner bien, il y a trois définitions pour sécheresse. Il y a la sécheresse météorologique, hein, c'est un déficit de précipitation, et là, quasiment toutes les régions françaises le subissent cette année. Il y a la sécheresse agricole, et c'est ce que subit véritablement le sud de la France, c'est-à-dire que là, ce sont c'est l'humidité du sol, hein, qui vient à manquer et qui a des conséquences énormes sur les fourrages, sur la production agricole. Et puis enfin, il y a les sécheresses hydrauliques, où là, on se retrouve avec des rivières dont les crues sont quasiment à sec. Et effectivement, la difficulté, c'est qu'on a un problème, en fait, d'intrants et de sortants, c'est-à-dire que les précipitations sont en des... se diminue et derrière on continue à consommer et donc forcément les ressources que l'on avait disponibles qui étaient renouvelables, eh bien on commence à puiser dedans, et ça c'est une difficulté majeure à laquelle bien sûr on risque d'avoir de se retrouver pendant encore pas mal d'années. Ouais.
Une difficulté parce que aussi ça dure plus longtemps.
Alors effectivement, on a tendance à dire que l'été sera long et que l'hiver sera court. Ça, c'est presque une réalité observée. Hein. Et effectivement, on peut considérer que là, il n'y a quasiment pas eu de précipitation en octobre, alors que le sud de la France est souvent soumis à ces fameux épisodes cévenols, alors qu'ils sont des précipitations intenses un peu exceptionnelles. Mais il est clair que l'été s'est prolongé au lieu de la durée habituelle. Alors il y a eu ce fameux cyclone Ophelia qui a ramené beaucoup d'air donc d'Europe du Sud et d'Afrique du Nord donc sur la France, ce qui a prolongé pendant encore pas mal de jours cet caniculaire, mais effectivement on se retrouve avec quasiment une absence de pluie dans le sud de la France depuis le printemps, quoi.
Hervé parlait des difficultés pour les agriculteurs, donc ils ont du souci à se faire. C'est ce manque de pluie en été, c'est une tendance pour les années à venir?
Les projections climatiques que l'on a sur autant sur les précipitations intenses sont un peu plus délicates à manipuler, autant sur le signal en température, enfin le déficit pluviométrique et la réponse, on va dire, agronomique hydrologique sont claires. Hein, la tendance est véritablement à une séquence de plus en plus fréquente. Alors c'est la fréquence, c'est toujours difficile d'attribuer un événement particulier au réchauffement climatique. En revanche, la période qui sépare des événements de même intensité se raccourcit considérablement.
Hervé.
Est-ce que c'est seulement la France ou est-ce que c'est tout le bassin méditerranéen? Il y a eu ces feux exceptionnel aussi au Portugal. Voilà. Est-ce que c'est seulement la France ou aussi d'autres pays du bassin méditerranéen?
Ah non, c'est clair, c'est d'autres pays du bassin méditerranéen. La Méditerranée, la région méditerranée est quelque sorte un amplificateur du réchauffement climatique. Là où les scénarios de maintien du réchauffement climatique en global de 2 degrés donnent en fait une projection d'un réchauffement de plusieurs, enfin de 4, 5 degrés sur la région méditerranée. Donc la région méditerranée est une région non seulement où tous les modèles climatiques s'accordent à dire qu'elle s'assèche et qu'elle se réchauffe, mais en plus les observations maintenant l'attestent de façon évidente.
Comment donc, ça s'explique ça, que la Méditerranée soit cette espèce de point d'orgue du réchauffement climatique?
Alors ça, c'est un petit peu c'est difficile à expliquer comme ça en quelques minutes. Ce qu'il faut savoir juste, c'est que le réchauffement climatique, on va réchauffer de façon globale, mais par ailleurs on a on va déséquilibrer en fait la différence qu'il y a entre la température à l'équateur typiquement, la température à latitude, et la réponse de l'atmosphère va essayer de redistribuer un petit peu cet excédent d'énergie là où il y en a, et puis ce déficit d'énergie là où il y en a, d'une certaine façon. Alors après, expliquer pourquoi à certains endroits on a cette amplification, pourquoi dans d'autres, ça c'est un petit peu délicat à expliquer, mais en revanche, par exemple, effectivement, l'Europe du Nord, elle devrait plutôt voir ses précipitations augmenter, malgré la température, on va dire, se augmenter aussi.
C'est aussi vrai pour le nord de la France, quand vous dites l'Europe du Nord?
Non, alors ça c'est toute la difficulté, c'est savoir où mettre la frontière entre là où ça va s'assécher et là ça va au contraire s'humidifier. Et je dirais que la France fait partie justement, enfin c'est un des pays où on ne s'est pas défini encore bien proprement, bien évidemment, où la frontière se fait, d'abord parce que c'est très incertain.
C'était pas la Loire à un moment donné.
Voilà, après il y a des aspects partisans qui vont dire que voilà, qui est au sud, qui est au nord, mais d'un point de vue scientifique, bien évidemment, la transition est toujours très délicate à déterminer, et définir la limite entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile.
Cette intensification du risque de sécheresse, il va de pair avec d'autres épisodes climatiques extrêmes?
Alors, Bon, il y a une dérégulation un petit peu du climat, ça c'est clair.
On l'a compris.
On a vu une période de cyclones tropicaux qui est, voilà, il y a eu beaucoup de cyclones tropicaux cette année, donc en Atlantique déjà. Donc il est, encore une fois, il est très difficile d'attribuer tout cela au réchauffement particulier, au réchauffement climatique de façon particulière. En revanche, ce qui est attendu, parce que physiquement ça s'explique assez bien, on a la haute atmosphère qui se refroidit, la basse atmosphère qui se réchauffe, et ça c'est propice à effectivement avoir des cyclones qui soient de plus en plus intenses, en même temps qu'effectivement on va avoir aussi des sécheresses qui vont se devenir de plus en plus fréquentes.
Hervé,
comment est-ce qu'on peut s'adapter concrètement? Parce que si ça s'accélère, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les gens peuvent faire?
Alors, d'abord, il y a deux choses. Il y a effectivement ce qu'on appelle l'atténuation. Et là, la COP21 a été un véritable succès de ce point de vue-là, puisque de façon non contrainte, les États ont, de façon transparente, donné leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est un événement remarquable. Alors après, on peut regretter que les États-Unis se retirent, en tout cas de façon partielle, de cet accord. Donc ça, c'est la partie atténuation. Et la partie adaptation, c'est effectivement, c'est par exemple moins consommé. C'est faire en sorte que les plantes soient moins consommatrices d'eau, si on doit continuer bien sûr il y a une révolution agricole qui doit se mettre en place. Alors je parle beaucoup d'agriculture tout simplement parce que c'est une très grosse consommatrice d'eau,
par irrigation. S'il n'y a pas d'oliviers en Provence, où est-ce qu'il y en aura alors?
Alors ça, là on commence à sortir de mon champ d'expertise, là il va falloir demander vraiment aux agronomes de se poser la question, mais certaines espèces sont déjà disparues du paysage méditerranéen, le chêne, la liège, qui est quand même l'arbre qui caractérise la région souffre énormément de réchauffement de température. Donc, de toute façon, l'écosystème évolue et s'adapte comme il peut naturellement. Et puis derrière, on doit bien évidemment modifier nos habitudes pour rendre plus durable les ressources en eau dont on voit qu'elles se tarissent.
Philippe Drobinski, d'un mot pour conclure, on le voit, ça semble s'accélérer et les scénarios, même les plus pessimistes, sont en train de se réaliser. Est-ce que ça veut dire qu'on peut encore agir? Il ne faudrait pas donner non plus l'impression que ça y est, les dés sont jetés et que ce réchauffement sera d'une intensité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore enrayer, freiner la machine?
Je dirais même plus que si on ne le fait pas aujourd'hui, ce sera d'autant plus difficile demain. Donc oui, il est temps, mais l'effort sera de toute façon déjà considérable. Mais si on ne le fait pas, l'effort sera intenable.
Merci à vous, Philippe Drobinski, Hervé Kempf. On peut retrouver sur le site de Reporter l'article de Marie Astier consacré à cette sécheresse exceptionnelle dans le sud-est de la France. À la semaine prochaine,
Hervé. À la semaine prochaine.
Et à demain, Agnès.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des murs et des plafonds de grottes couverts de dessins, de fresques et de peintures. Des chercheurs de l'université de Leicester et du British Museum viennent de publier une étude sur la plus grande concentration d'art rupestre précolombien des Caraïbes à Isla Bonita, une petite île au large de Porto Rico. Ils y décrivent des milliers de motifs nichés sous terre dans des dédales de cavernes difficilement accessibles. Les premiers résultats sur la datation de cet art et sur les techniques de peinture utilisées ont été publiées dans la revue Journal of Archaeological Science. Mieux vaut se faire opérer du cœur l'après-midi. C'est ce que conclut une étude parue dans la prestigieuse revue The Lancet. Des chercheurs français ont observé que sur près de 600 patients opérés à cœur ouvert au CHU de Lille, ceux qui passaient sur le billard l'après-midi avaient deux fois moins de risques de souffrir de complications juste après l'opération. À ce moment de la journée, le muscle cardiaque est plus tolérant à la privation d'oxygène qui est déclenchée temporairement lors d'une intervention chirurgicale. Pourquoi ? C'est une question d'horloge interne. Les cellules cardiaques ont elles aussi leur propre rythme biologique qui joue sur la résistance. Cette découverte se fonde sur les travaux sur le rythme circadien récompensé cette année par le prix Nobel de médecine. La terre a encore tremblé samedi soir dans la vallée de la Maurienne. Une nouvelle secousse a été enregistrée d'une magnitude de 3,8 sur l'échelle de Richter. Plus de peur que de mal, aucun dégât n'est à déplorer. Mais les habitants du secteur sont inquiets. 140 secousses ont été enregistrées en 40 jours. Les spécialistes parlent d'un essaim sismique. Impossible pour le moment de prévoir l'évolution de ces petits tremblements de terre à répétition. De nouveaux capteurs ont été installés pour mieux surveiller le phénomène. Dans un instant, on s'intéresse à la façon dont l'informatique transforme nos sociétés et nos schémas de pensée avec notre invité Gérard Berry.
Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien.
C'était Tout va bien d'Aurel San.
L'ordinateur s'installe chaque jour de plus en plus dans notre vie quotidienne. Ainsi que nous prenions le métro, le train ou bien l'avion, c'est lui qui règle le trafic et veille sur notre sécurité. Bientôt, il nous sortira des embouteillages. Et au train où vont les choses, on peut se demander quels seront les domaines de notre existence qui lui échapperont. C'est là la grande révolution de l'informatique. Ainsi, grâce à son étonnante rapidité et sa prodigieuse mémoire, cette machine va bouleverser notre vie. Et peut-être les enfants apprendront-ils bientôt son histoire.
Reportage d'un certain Michel Chevalet, diffusé en 1970 sur la deuxième chaîne de l'ORTF. La révolution informatique était annoncée déjà. Invité de la tête au carré, Gérard Berry, informaticien, professeur au Collège de France. Vous venez de publier, alors vous dirigez la chaire Algorithmes, Machines et Langage au Collège de France, et vous venez de publier aux éditions Odile Jacob l'hyperpuissance de l'informatique. Une hyperpuissance que, selon vous, Gérard Berry, certains ont mis du temps à voir venir, même si on l'entend, Michel Chevalet, sur l'ORTF, l'annonçait déjà en 1970.
1970, c'est l'année où j'ai commencé la recherche. Donc, à cette époque-là, c'était clair pour certains, mais pas pour tout le monde. Oui, on a mis du temps à la comprendre, parce que les gens ont pas voulu se mettre dans le schéma mental qu'il faut. Ça a toujours été un cours étranger en France, pas du tout à Silicon Valley, évidemment. Ouais. Et effectivement, parce que ça ressemble pas au reste, ça ressemble pas à ce qu'on faisait avant.
Vous dites même que vous avez souvent entendu, dans les années 70-80, l'informatique est une mode qui va passer.
Oui.
Incroyable qu'on ait à ce point pas vu venir les choses.
Ah mais on peut se persuader de tas de choses. Quand on reste persuadé de ce dont on est persuadé sans chercher à voir ce qui se passe, on peut le rester longtemps comme ça. Ouais. Oui.
Mais pour quelle raison? Parce que même dans la communauté scientifique, l'informatique a été longtemps un peu perçue de façon négative.
Oui, de façon négative, oui, par à peu près tous les scientifiques, parce que c'est un nouveau venu, on est quand même assez conservateur en sciences, au moins dans la structure des disciplines. Pas partout, l'université a enseigné très très vite l'informatique, les grandes écoles, ça a été beaucoup plus lent. Oui, à l'Académie des sciences, ça a été très lent, maintenant il n'y a plus de problème, mais ça a été très lent et pas du tout vrai aux États-Unis. C'était aux États-Unis, les grandes facs sont tout de suite... rentrer dedans.
Alors, vous disiez, il a fallu aussi qu'on change notre façon de penser, qu'on transforme un peu, qu'on inverse nos schémas de pensée. Pourquoi l'informatique bouleverse comme ça les représentations, et notamment celles des scientifiques ?
Eh bien, parce qu'elles ne ressemblent pas au passé. En France, on est un pays très orienté vers le passé. On pense que la compréhension de tout se déduit du passé. Eh bien là, ça ne marche pas parce qu'il n'y avait pas de passé en informatique. Et donc, moi, je parle toujours du triangle classique du XXe siècle, matière, énergie, onde. Et puis, matière, énergie, onde, on comprend ça bien, ça se sent. Bon, les ondes, ça se sent pas trop, mais si, le soleil, mais il y a la radio. Et donc, matière, énergie, onde, on comprend, c'est palpable, hein, ça fait appel à nos sens. L'informatique travaille avec l'information qui, elle, ne fait pas directement appel à nos sens. Elle fait appel à un sens un peu bizarre, qui est la compréhension. Mais en informatique, on travaille pas forcément avec de l'information humaine. Hein. Quand on pilote un avion, il y a pas d'homme dans le trajet de l'information. Si, il donne des ordres au joystick. Mais tous les calculs qui sont faits sont sur des informations de capteurs et envoient des informations à des moteurs. Donc cette notion-là d'information au centre du jeu, elle n'était pas connue. Quand on met l'électricité au centre du jeu, on reste dans la physique, dans l'énergie, dans les ondes, mais mettre l'information dans un frein, quand on freine, eh bien, c'est un système d'information qui choisit comment freiner chaque roue. Mmh. Et ça, on n'est pas du tout habitué, et cette chose n'a pas été enseignée, elle ne l'est officiellement que depuis cette année, sauf de façon marginale, je dirais même que l'enseignement d'informatique a été supprimé, l'enseignement optionnel de programmation a été supprimé en 1997, au moment où Internet explosait. Donc on sent la préscience là.
Oui. C'est vrai que la notion d'information, maintenant on commence à être habitué, mais il y a quelque chose qui change avec notre monde matériel. C'est-à-dire que quand je donne une information, moi je la possède toujours. Quand je la transforme, ça ne me coûte pas énormément d'énergie de transformer une information, contrairement à la matière. Ça ne se diffuse pas de la même manière, une information.
Voilà, c'est très 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 léger. Et je l'ai vu quand je discutais avec les parlementaires au moment de la loi Hadopi sur le téléchargement. Pour eux, de la musique, c'était forcément sur un support matériel. Donc le téléchargement, ils avaient un peu de mal à comprendre comment ça marchait. Et donc, ils ont fait une loi sur le téléchargement illégal. Et nous, on leur disait, vous savez, le temps que vous votiez cette loi, le téléchargement, ça aura disparu. Il y aura le streaming, le podcast et tout. Ben, ils ne croyaient pas parce que déjà qu'ils avaient eu du mal à gommer le téléchargement. Donc, oui, ça marche pas du tout pareil. Dupliquer la matière, on sait pas faire. Très difficile. Dupliquer l'information, c'est complètement trivial.
C'est un domaine dans lequel les politiques ont du mal justement à suivre parce que ça fait pas forcément partie de leur culture quand ils...
Voilà. On a décidé que ça ferait pas partie de notre culture. Donc c'est pas dans l'enseignement, je dirais, même un scientifique moyen a des chances d'avoir fait zéro seconde d'informatique dans sa carrière. Et maintenant, par exemple, à l'Institut Pasteur, on oblige tous les biologistes entrants à apprendre l'informatique de façon intensive. Mais enfin, il faut du temps pour apprendre quand même. Et donc oui, ça fait pas partie de la culture parce qu'on a choisi que ça ferait pas partie de notre culture. Ouais. Et donc, ça n'en fait toujours pas partie. Donc les gens ont du mal à comprendre les mécanismes.
Ouais. Et évidemment, ça change beaucoup de choses hein, dans nos organisations, dans notre monde informatisé. Vous donnez des exemples très précis. Hein. L'information est devenue une entité finalement plus importante ou au moins aussi importante que la matière. On s'en rend compte avec les VTC par exemple. Hein. Celui qui est maître du jeu, c'est Uber, qui détient finalement, il ne possède pas les voitures. Qu'est-ce qu'il possède ? L'information.
Voilà, et des serveurs quand même. Oui. Et il faut de la matière, mais c'est la même pour tout ce qu'on fait. Hein. Les ordinateurs sont les mêmes qu'on fasse des radios Uber, des radios, je veux dire, médicales, Uber, voler des avions, c'est les mêmes ordinateurs. Oui. Donc c'est une machine universelle. Il n'y a pas de machine universelle en physique.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit à bord d'un train, d'une voiture, d'un avion ou de toute autre machine, l'informatique qui est à l'œuvre fonctionne de la même manière. C'est ce que vous dites, que c'est universel.
Les circuits sont les mêmes, à peu de choses près. Par contre, les logiciels qui, eux, sont fabriqués par des hommes, les circuits sont fabriqués par des machines, ils sont conçus par des hommes, mais les logiciels sont extrêmement variables. Mmh. Mais le logiciel, c'est une grande science. Et oui, piloter un avion et une voiture, c'est à peu près les mêmes études. Moi, je dis toujours qu'avant, il fallait faire des études différentes suivant les métiers. Si on faisait de la musique, il fallait faire des études de musique. Si on faisait des livres, hein, des disques, et si on faisait des livres, il fallait faire des études d'imprimerie. Ben maintenant, c'est les mêmes, parce que les algorithmes pour faire des livres ou pour faire de la musique, c'est les mêmes.
Ah, alors vous venez de prononcer le mot, les algorithmes en informatique. Oui. Tout fonctionne, les petits moteurs qui font tourner tout ça, ce sont les algorithmes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ?
Alors, c'est pas le petit moteur, l'algorithme, c'est le programme, le petit moteur et le circuit. L'algorithme, c'est l'objet conceptuel qui va comprendre comment on organise des calculs. Et l'algorithme va faire des choses complexes à partir d'opérations très simples qui sont organisées dans le temps et dans l'espace de façon tout à fait précise. Et qui sont conçus. Alors, les algorithmes, il y en a des milliers et des milliers. Il y a des algorithmes apparemment simples, comme trier des choses. Des algorithmes qui consistent à permettre de transmettre une information sur une ligne qui ampère et qu'il faut renvoyer et tout ça. Des algorithmes qui pilotent des voitures. Des algorithmes qui font de la musique. Des algorithmes qui font de la photo. Tous ces algorithmes obéissent à des principes communs mentaux, des principes mentaux communs qui sont complètement différents de ceux de la physique. Et c'est ça que les gens ont du mal à voir. Donc il y a des milliers d'algorithmes, mais il y a une façon commune qui s'appelle la pensée algorithmique de les construire, de les comprendre, de les analyser.
Donc il faut voir ces algorithmes comme une succession de petites étapes, comme une recette de cuisine.
Une recette de cuisine, c'est un algorithme très simple. Ouais. Donc l'algorithme, c'est des suites de petites actions et de choix. C'est essentiellement ça. Et de communication. Donc c'est essentiellement ça. Mais on en fait beaucoup, c'est-à-dire qu'une machine fait à peu près entre 1 et 5 milliards d'opérations par seconde, tandis que nous, on n'en fait pas beaucoup. C'est de toute façon des opérations très bêtes, mais par exemple, on a vu qu'on peut jouer au Go très très bien en faisant des machines qui connaissent que les règles et qui ont joué 40 millions de parties contre elles-mêmes. Mais aucun 40 millions de parties, il n'y a jamais eu ça dans l'humanité, quasiment. Donc le volume de calcul qu'on peut faire, c'est ça qui donne la puissance à l'algorithmique.
Et c'est ce qui fait que même quand on prend une photo avec notre téléphone portable, vous dites si aujourd'hui, avec un téléphone portable qui n'a pas forcément un très bon capteur, un très bon objectif, on arrive à faire de si jolies photos, c'est que ce sont des photos algorithmiques. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Voilà, alors je fais un long chapitre sur la photo, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'une photo. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment c'est fait. Le capteur, il va donner des nombres. Des nombres qui sont les intensités lumineuses de chaque couleur. Et on va triturer ces nombres à l'aide de nombreux algorithmes extrêmement sophistiqués pour faire l'image qu'on voit. Et par exemple, on va pouvoir défaire les défauts de la physique. Ça, c'est une notion très importante. Un objectif de physique, ça fait des distorsions. En particulier, un objectif de smartphone, ça fait beaucoup de distorsions. Et ces distorsions, on ne sait pas les défaire physiquement. Alors, on faisait des objectifs très très compliqués pour essayer de ne pas trop en faire, mais avec les algorithmes, on sait les défaire. C'est-à-dire, on sait quelle distorsion va faire l'objectif, donc on sait la démonter. Et donc, un appareil photo moderne, c'est surtout des algorithmes sur lesquels on pose un objectif, quand même de bonne qualité, et un capteur. Mais la majorité des progrès de la photo a été dû aux algorithmes. Et le téléphone, par exemple, est complètement impossible à faire sans algorithmes, mais il faut longtemps pour raconter ce qu'il y a dans un téléphone.
Ouais. Ils sont partout, ces algorithmes, aujourd'hui. On poursuit notre excursion dans l'univers de l'informatique. Nous allons voir à quoi servent les supercalculateurs qu'utilisent les scientifiques aujourd'hui. Et puis nous évoquerons aussi les bugs et les failles de nos sociétés informatisées. Pour adresser vos questions à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
La révolution informatique est en marche.
I know you think I'm a psychopath, Democrat lurking in the dark. This sucks, I'm the Kmart soda jerk, served to trash. I kept the stash of coca candy straight from Japan, hologram, and she was never as near. Think you know what I need to get by?
Something for your mind,
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 mind.
Something for your mind,
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 mind.
Something for your mind. Something for your mind. Something for your
I know you think I'm a sociopath, my lovely prey, I'm a cliche. Make way, I'm in my Pepsi mood. Mama needs food, how about a barbecue? For us, the bourgeoisie, so carefree. Remember when we? I don't know why you need to get by.
Something for your mind,
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 mind.
Something for your mind,
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 mind. Mind. Something for your
C'était Something for Your Mind de Super Organism, un collectif de musiciens qui justement arrive à collaborer grâce au réseau informatique.
La tête au carré sur France Inter.
Le premier jour, l'homme dit que le chiffre soit et le chiffre fou. L'homme vit que cela était bon, alors il compta sur ses doigts pour ne pas l'oublier. Le deuxième jour, comme il n'avait pas assez de doigts, il inventa le boulier. Le troisième jour, fatigué de compter, l'homme dit que la machine à calculer soit et la machine fut. Mais le quatrième jour, submergé par les problèmes à résoudre, l'homme dit que l'ordinateur soit et l'ordinateur fut. Comme il vit que cela était bon, alors le cinquième jour, l'homme dit à l'ordinateur, croissez et multipliez.
Voilà résumé assez sommairement l'histoire qui a précédé l'arrivée des ordinateurs. Gérard Berry, je vous voyais sourire en entendant la voix de cet enfant. Vous êtes professeur au Collège de France et auteur de L'hyperpuissance de l'informatique chez Odile Jacob. Ça vous va comme résumé des épisodes précédents?
Oui, oui, c'est rigolo parce que ça, l'ordinateur a commencé par compter. Au début, on comptait. Maintenant, on fait beaucoup d'autres choses. On fait de la musique, on fait de la photo, on conduit des avions, on s'envoie des mails et on a tout Internet dans sa poche.
Ouais. C'est marrant. Vous revenez souvent sur l'exemple des avions parce que vous avez mis au point un langage informatique qui permettait justement de mettre de l'informatique dans le pilotage des avions.
C'est-à-dire de contrôler l'ensemble de l'avion. Alors moi, pas comme moi, on est toute une bande de Français à avoir fait ça. Ouais. De faire piloter l'avion par des ordinateurs, par exemple, de répondre au vent de façon très très subtile. Donc en particulier les premiers Airbus A320 qui a été le premier avion qu'on appelle à commande électrique, hein, ouais. Ce qui veut dire que c'est que du logiciel.
D'accord.
Non, il y a des électricités, mais vous voyez, on n'arrive pas à se détacher de la matière, on n'arrive pas à se détacher du XXe siècle. Ouais. En fait, c'est l'informatique qui fait le gros du boulot.
Alors aujourd'hui, l'informatique a transformé nos façons de faire au point qu'on se demande parfois comment on faisait avant.
Alors le meilleur exemple, c'est le moteur de recherche. Ouais. Le moteur de recherche... c'est né en 1995, donc un peu avant l'an 2000. Et moi, j'y croyais pas au début.
Ah oui.
Non, j'étais chez l'auteur du moteur de recherche, Louis Monnier, qui est un Français, un des trois auteurs du premier moteur, sérieux. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Puis là, au bout d'un moment, j'ai compris que plus jamais on ne se rappellerait comment on faisait avant sans les moteurs de recherche.
Pourquoi vous n'y croyez pas en tant qu'informaticien?
J'ai pas vu venir, c'était une révolution. Parce que c'est toujours pareil, les gens ils font des prévisions à 30 ans, mais en fait ce qui se passe c'est des choses qu'on n'a jamais vu venir. Donc le moteur de recherche, j'étais pas dans la bonne communauté, j'ai pas compris qu'il venait de faire une révolution fondamentale. Ouais.
Avec ce souci aussi qu'aujourd'hui tout le monde pose toutes ces questions aux mêmes, parce que les moteurs de recherche il y en a plusieurs, mais enfin, c'est vrai que Google est assez hégémonique, donc on va tous chercher les réponses à nos questions auprès de la même entité.
Ah oui, ça fait des biais aussi, des biais, mais quand on cherche des trucs pratiques, c'est très bien. Après, si on cherche des opinions, alors là, évidemment, c'est beaucoup plus discutable.
Hein. Alors là, ce sont des exemples très concrets, hein, parce que les avions, les moteurs de recherche, tout ça, on le pratique, hein, dans nos vies de tous les jours. Il y a d'autres domaines où, là encore, l'informatique est en train de révolutionner tout à fait ces disciplines. Il y a notamment la médecine, même si, évidemment, ça nous concerne directement, mais enfin, on passe pas tous les jours au bloc opératoire. Et en médecine, l'informatique est en train de bouleverser les choses.
Pas dans toute la médecine encore, parce que en général, deux médecins savent même pas s'envoyer un mail. Mais oui, certainement dans toute l'imagerie qui joue un rôle fondamental. Quand vous allez passer une IRM ou une radio, en fait, ce sont des algorithmes et c'est un mélange d'algorithmes et de physique dans lesquels les algorithmes sont de plus en plus importants. Ouais. Par exemple, maintenant, le médecin voit une image 3D. Il vous opère en réalité virtuelle dedans. Et ça, ce sont les algorithmes qui font ce boulot-là.
Alors justement, avant d'opérer, les chirurgiens peuvent explorer l'intérieur du corps de leurs patients sur leur écran d'ordinateur, comme ici avec le chirurgien Jacques Maresco.
Là, vous avez le clone, ce qu'on appelle le clone digital du malade. C'est-à-dire que vous avez la reconstruction en trois dimensions, vous le voyez, de la peau. Et puis, la chose géniale, c'est que vous arrivez à l'intérieur. Et surtout, vous pouvez aller naviguer là où vous voulez. Et vous voyez tous les éléments qui sont des éléments importants pendant l'opération. Vous voyez les veines, vous voyez les structures des veines qui sont en rapport avec les os. Ici, vous avez la clavicule. Et puis, vous pouvez enlever les os, par exemple la colonne, vous voyez mieux. Vous pouvez enlever une veine, vous pouvez enlever une artère.
On peut voir ici en vue postérieure.
Je vais tous les os parce que sinon, je ne vois rien.
Voilà, en vue postérieure sans les os.
Et là, on voit très bien que, à côté de l'œsophage, que vous voyez ici en rose, vous voyez cette boule verte, c'est une tumeur bénigne qui n'a pas la taille qu'elle devrait avoir.
Extrait d'un reportage de Futur Mag sur Arte avec Jacques Maresco, chirurgien, président de l'IRCA, de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif. Ces images en 3D que l'on peut tourner dans tous les sens, où on peut enlever certains éléments, aller voir au fond, là, clairement, c'est radicalement différent de la radiographie d'autrefois. Et ce sont les algorithmes dont vous parliez qui sont à l'œuvre, Gérard Bert.
Absolument, et qui mélangent d'ailleurs plusieurs types de radiographie éventuellement. C'est très important, on peut faire beaucoup mieux maintenant, et on commence à le faire à faire de la réalité virtuelle à l'intérieur du patient, c'est-à-dire avec des lunettes 3D, par exemple, de voir l'intérieur du patient en même temps que l'opération, en superposé. Et ça, pour les chirurgiens, c'est excellent. Par exemple, pour les opérations du foie, qui sont très délicates, eh bien, c'est très difficile de voir ce qui se passe, mais si on injecte le foie en réalité virtuelle à l'intérieur, eh bien, c'est comme si on avait une carte de géographie. Alors attention, c'est pas encore fini, cette histoire, ça fait des progrès tout le temps, mais c'est absolument majeur. La chirurgie et la radiologie sont extrêmement en pointe. Maintenant, ce qui marche moins bien, c'est les diagnostics et tout ça. C'est-à-dire que le médecin, un chirurgien, ça dialogue pas tellement avec son patient quelque part, mais un médecin si. Donc, informatiser le reste de la médecine, là, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, tout de même, on peut aussi compter sur l'apprentissage des machines, notamment, par exemple, reconnaître sur la peau une tumeur bénigne ou maligne. Les ordinateurs peuvent apprendre à faire ça peut-être plus finement qu'un expert.
Mais surtout en fatiguant moins. C'est-à-dire, on a des bases de données très très grandes d'images annotées, c'est-à-dire des images dans lesquelles les radiologues ont dit là il y a tel type de tumeur, là il y a tel type de lésion bénigne, maligne, etc. Mais c'est en centaines de milliers. Et donc, partant de ces images, des systèmes qu'on appelle d'apprentissage profond. Ça ne veut pas dire que l'apprentissage est profond. Ça veut dire que le réseau qui fait l'apprentissage a beaucoup de couches. Ces systèmes d'apprentissage profond vont être capables de faire le travail de reconnaissance en bonne partie et de dire au radiologue, moi je pense qu'il y a ça là. Ouais. C'est le radiologue qui aura le dernier mot, attention, il y a une question de responsabilité. Mais oui, on arrive à des résultats très impressionnants avec ces systèmes, par exemple en radio. C'est les mêmes systèmes qui traduisent les langues ou qui écoutent la parole, c'est la même logique, ou qui jouent au go.
Et alors, de façon plus générale, dans toutes les sciences, on se rend compte que l'informatique change la façon de faire, aussi bien pour les biologistes, en astronomie. Maintenant, vous dites, on regarde plus le ciel et les étoiles avec des lunettes et les yeux qui regardent dans les lunettes, on regarde le ciel avec des algorithmes.
On regarde le ciel avec un mélange d'instruments et d'algorithmes. C'est-à-dire que les instruments fournissent des données qui sont complètement inexploitables par les hommes. Mais ils sont exploitables par les algorithmes qui sont, eux, inventés par les hommes. Faut jamais oublier ça. Et les hommes inventent les algorithmes et font faire le boulot à leurs machines. Mais nous sommes déjà incapables de faire une multiplication. Donc, pour faire des simulations de galaxies ou traiter des observations astronomiques, il faut faire des milliers de milliards de multiplications. Donc, oui, on utilise la puissance bestial de l'ordinateur avec les algorithmes intelligents des hommes pour faire ce qu'on ne savait pas faire avant.
Et vous dites aussi que Philae, ce petit robot qui allait se poser sur la comète Tchoury, tout le monde a salué la prouesse, mais peu de gens ont dit que c'était une prouesse informatique, alors qu'évidemment l'informatique avait sa part.
Je suis très heureux parce que je l'ai dit à la tête au carré, que c'était avec Mathieu Vidard quand Philae s'est posé là, j'ai dit, vous savez, s'il est arrivé jusque-là sans se tromper, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de maths et beaucoup d'informatique et beaucoup d'automatique.
Ouais. Oui. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui en France, les grands organismes de recherche comme le CNRS, l'INRIA ou encore le CEA se sont associés pour financer les supercalculateurs. La structure se nomme le GENCI pour Grand Équipement National de Calcul Intensif. Et les équipes de recherche de tout le pays vraiment font la queue pour pouvoir bénéficier de ces supercalculateurs. Alors à quoi ça sert d'avoir cette puissance de calcul ?
Bien, ça sert à simuler beaucoup. Et simuler, c'est très intéressant. Quand on simule les galaxies dans le ciel ou quand on simule des phénomènes physiques compliqués, eh bien, on remplace l'expérience physique par une expérience purement informationnelle. C'est-à-dire, la simulation, c'est remplacer la matière, l'énergie et les ondes par uniquement de l'information. Faire semblant. Donc, hein, c'est la même chose que ce que fait un pilote d'avion quand il s'entraîne dans un simulateur ou dans un jeu de simulation. C'est la même chose en beaucoup plus grand, parce que là, on travaille, par exemple, dans la simulation des galaxies, dans la simulation du climat, qui est, un, comme on l'a vu tout à l'heure, un enjeu absolument fondamental et très difficile. Donc, oui, il faut des puissances de calcul gigantesques, parce que la Terre, c'est gros, et il faut travailler avec des petites mailles, donc avec énormément de données.
Ce qui explique aussi qu'une course, en fait, à la puissance de calcul, c'est engagé. Tous les plus grands États, les plus grands pays sont sur les rangs. On parle de l'exascale. Alors, qu'est-ce qu'il sera capable de faire ? C'est une machine, hein, qu'on appelle l'exascale. Qu'est-ce qu'elle aura de plus que les ordinateurs d'aujourd'hui ?
Elle fera beaucoup plus d'opérations à la seconde et en essayant de consommer pas plus d'électricité. Il faut savoir qu'une machine de ce type-là, ça consomme de l'ordre de 20 mégawatts, ce qui est absolument énorme. Mais elle essaiera justement de pouvoir traiter des problèmes de beaucoup plus grande taille sur la simulation du climat, la météo. Si la météo maintenant fait des prévisions de plus en plus longues, qui sont pas d'une, mais qui donnent leur précision, qui n'est pas extrême, mais qu'avant on ne savait pas du tout faire ça, c'est pas à cause de l'infrastructure de calcul et de la qualité des modèles et de tout l'entraînement qu'on a pris dessus.
Et alors on voit hein, pour l'exascale, les États-Unis, la Chine espère réussir à faire cette machine capable de faire 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. On est à la traîne, nous, en France.
Ah oui, mais on joue pas dans cette cour-là. Il y a eu des supercalculateurs, mais ça a commencé en France, l'informatique. Il faut rappeler qu'elle a commencé parce que au moment où tout le monde essayait de faire des bombes atomiques, les Américains ont mis un embargo sur l'importation par la France d'un supercalculateur de l'époque. Donc c'est là que l'informatique française, la construction de machines est née. Mais ce sont des budgets énormes. Et il y a eu des efforts chez Bull, bien sûr, mais non, on n'est pas dans la course.
On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, détenir et maîtriser la puissance de calcul, c'est devenu une question de souveraineté nationale. Il y a 60 ans, il fallait aller poser son drapeau sur la Lune. Aujourd'hui, il faut être le premier à faire ce super calculateur, l'exascale.
Alors, il y a une question de prestige, mais il y a aussi une question réelle. C'est-à-dire que, quand même, les gros calculateurs permettent de faire des choses qu'on peut pas faire avec les plus petits. Donc, alors je suis pas c'est pas complètement mon domaine, ça, mais il y a beaucoup une question de prestige. Oui, il fallait aller sur la Lune, ce qui avait pas d'intérêt spécial, hein, on n'en a pas... Mais il y avait une course de prestige. Et là, les Chinois veulent passer les Américains pour montrer que la Chine, ce n'est plus la fabrication d'objets bas de gamme.
Ouais. Aujourd'hui, l'informatique est partout. Nos sociétés en ont fait une force. Mais avec l'informatique, de nouvelles vulnérabilités apparaissent aussi. Les piratages, les trous de sécurité, les bugs. Nous allons en parler dans un instant dans La Tête au Carré sur France Inter.
Cherche les vivants dans le mauvais temps. Quand Paris m'étreint, je gémis sans fin. Dehors et dedans, personne n'entend. Et je cogne aux portes encore et encore dans
Quand Paris s'éteint, c'était Jean-Louis Aubert dans La Tête au Carré sur France Inter. La programmation musicale de l'émission est signée Thierry Dupin.
Bon, j'ai le compte à rebours sur l'ordinateur là.
Moi je le vois sur la Tour Eiffel.
3, 2, 1, bonne nuit.
Merde, tout s'éteint. L'ordinateur s'est planté. Bon, c'est écrit éteindre l'ordinateur et voir un préposé au service. Bon, j'éteins l'ordinateur. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit un préposé au service?
Non.
On a un gros problème, les gars.
Oh, l'électricité maintenant.
C'est pour moi.
Mais qu'est-ce que tu fais?
Je vais essayer de rallumer.
Il n'y a pas de courant, tout ce que ça va faire, c'est clic.
Clic.
Même nos clics sont foutus.
Alors on pourra peut-être même pas prendre nos claques.
Le bug est général.
Extrait des 2 minutes du peuple du Québécois François Pérusse, imaginant en 1999 le fameux bug de l'an 2000 que l'on a tous redouté. Invité de La Tête au Carré cet après-midi, Gérard Berry, auteur de L'hyperpuissance de l'informatique aux éditions Odile Jacob. C'est vrai qu'on a redouté ce bug de l'an 2000, mais on est quand même aux prises de beaucoup de petits dysfonctionnements, hein, que ce soit sur notre ordinateur qui plante, notre tablette, notre smartphone qui répond plus au doigt et à l'œil. Qu'est-ce que c'est un... On va soulever avec vous un peu le capot de la machine. C'est quoi concrètement un bug? Quand on dit ça bug, Gérard Berry.
Alors, un bug, c'est une petite erreur humaine dans l'écriture du programme qui va faire marcher la machine. Et il faut savoir que la machine est totalement obéissante, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est mal écrit, elle va le faire sans la moindre réflexion, sans la moindre correction. Et elle va le faire jusqu'au bout, c'est-à-dire s'il y a une bêtise écrite, toutes les conséquences de cette bêtise vont être tirées. Je dis toujours que l'amplificateur, c'est avant tout l'ordinateur est avant tout un amplificateur d'erreurs.
Ouais.
Donc faire de l'informatique qui marche mal, c'est très facile. Faire de l'informatique qui marche très bien, c'est très difficile.
Ouais.
Donc l'écart entre les deux se voit.
Et ça peut conduire à de vraies catastrophes, hein, les bugs.
Ça conduit à de véritables catastrophes. Il y en a eu dans l'automobile, il y en a eu, il y en a un peu partout. Mmh. Et puis des bugs font aussi des entrées de sécurité, de trous de sécurité qui permettent de prendre le pouvoir sur des systèmes.
Oui. On va en parler, hein, évidemment, là, d'actes plus malveillants, mais restons déjà sur les erreurs. Hein. Quand il n'y a pas de pirate dans le coin, mais juste une erreur humaine, le robot martien Spirit qui a failli mourir à peine arrivé sur Mars.
Pathfinder et Spirit ont failli mourir en arrivant sur Mars et ont été sauvés d'extrême justesse, je dois dire.
Ouais, c'était un bug.
C'était un bug. Schiaparelli, c'est une mauvaise conception du système.
Ouais.
Il y en a beaucoup. Hein, le fameux système de paye Louvois des armées, là, c'est pas un bug. C'était une informatique très mal conduite des débuts à la fin. Pas qu'une informatique, d'ailleurs. L'ensemble de l'opération très mal conduite, etc. Oui. Et les bugs, c'est redoutable parce que c'est sournois. C'est-à-dire, quand ça se déclenche, on sait vraiment pas ce que ça va faire.
Ouais. Dans le domaine médical, hein, vous parlez de en radiothérapie, Terac 25, là, il y avait une surirradiation des patients. Là aussi, c'était un problème.
C'était un micro-bug dans le traitement d'une touche du clavier qui a surirradié très gravement une douzaine de personnes, dont plusieurs sont mortes.
Ouais.
Un bug stupide, idiot, dans le traitement d'une touche du clavier, un bug d'incompétence.
Ouais. Mais alors là, du coup, on se dit, vous nous avez cité les exemples, le train, l'avion, la voiture, qui inclut de plus en plus d'informatique, alors si ça bug?
Ah ben oui, il faut faire très attention. Et dans les avions, il y a des systèmes extrêmement forts de certification du logiciel, ou dans les trains. Dans les voitures, il n'y en a pas du tout. Donc ça m'inquiète beaucoup plus, les voitures.
Ah oui, c'est-à-dire que sur les voitures, c'est moins garanti.
Voilà, c'est beaucoup moins garanti que sur les avions. Beaucoup, beaucoup moins.
Comment
et il y a pas mal de trucs qui sont un peu holés quand même. Bon, j'en ai pas mal, j'en raconte beaucoup dans le bouquin.
Ouais.
Le bouquin est aussi fait pour les gens qui connaissent pas l'informatique, surtout d'ailleurs, pour qu'ils comprennent. Et je donne beaucoup d'exemples de bugs pour voir la tête que ça a.
Ouais.
Justement, une voiture qui part tout droit à fond parce qu'il y a un bug dans le contrôle moteur, etc.
Ouais.
Alors ça, c'est la différence entre bien faire et mal faire, mais c'est pas le même prix, bien faire et mal faire non plus. Et c'est pas la même science.
Ouais.
Il y a une science du bien faire qui est très forte. Si on l'emploie pas, on a ce qu'on obtient.
Alors parfois, ce n'est pas une erreur, mais de la malveillance qui peut être à l'origine d'un dysfonctionnement informatique. On en a eu un exemple il n'y a pas très longtemps. Nous étions en octobre 2016.
Une attaque massive sur les géants d'Internet. Twitter, Amazon, eBay, Airbnb. Voici ce qu'affichaient ces sites hier soir. Page inaccessible.
Beaucoup d'ordinateurs dans le monde qui étaient déjà piratés ont envoyé des données sur un serveur. Ça a bloqué ce serveur. Il ne peut plus afficher les sites que veulent voir les gens.
Pour saturer les serveurs, les pirates ont aussi pris le contrôle d'objets connectés. Alarme, thermostat réglable à distance, montre et même voiture intelligente. Ces objets connectés sont partout dans nos maisons. Ils sont moins bien protégés que nos ordinateurs. Une nouvelle cible facile pour les pirates.
Extrait du journal de 13h de France 2. Nous étions en octobre 2016. Alors là, il faut que vous nous expliquiez, Gérard Berry, qu'est-ce qui s'est passé? Comment des pirates, des gens mal intentionnés, peuvent utiliser des cafetières, des caméras de surveillance pour faire tomber tous les systèmes informatiques?
Alors ça, c'est le côté universel de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre celui de votre téléphone, l'ordinateur, le giga-ordinateur Zaskel et le petit microprocesseur qui contrôle votre cafetière. Il n'y a pas de différence fondamentale. La différence est quand même que sur votre ordinateur, on vous a appris qu'il fallait mettre des antivirus, qu'il fallait faire attention à tout. Mais les gens des cafetières, eux, ils l'ont pas fait. Et parce que personne ne sait qu'il y a des ordinateurs dans les cafetières, bien sûr. Des caméras vidéo ont été recrutées. Et donc, les hackers s'en sont aperçus, ont mis des programmes malveillants qui, à une certaine heure précise, ont attaqué un des serveurs principaux, un des serveurs de nom d'IN aux États-Unis, et ça a été des recrutements massifs. Mais c'est très facile, parce que même quand vous installez, vous, quelque chose chez vous, on vous dit toujours faut mettre un mot de passe et un utilisateur. Alors, par défaut, c'est admin-admin. Donc, tout le monde garde admin-admin, et les hackers, ils ont plus qu'à taper admin-admin dans toutes les caméras de la Terre. Même comme ça, c'est simple. Mais même, on peut faire des trucs plus sophistiqués. Mais voilà.
On fait pas assez attention. Globalement, on se méfie pas assez de, justement, ces trous de sécurité et des conséquences que ça peut avoir.
Mais pourquoi est-ce que les gens se méfieraient puisque personne ne leur a jamais rien dit? On ne se méfie pas, c'est une raison d'ignorance. C'est-à-dire, c'est pas que les gens se méfient pas, c'est qu'ils sont même pas au courant qu'il y a un problème. C'est pour ça que je milite pour l'enseignement.
Oui. Non, on va y venir à l'enseignement. Mais d'ailleurs, vous dites, les pacemakers, on s'est rendu compte que, parce que là encore, ils sont reliés informatiquement, ces petits appareils que l'on met pour les déficients cardiaques. Et vous dites, là aussi, on n'a pas su voir les trous de sécurité que peuvent avoir ces appareils.
On a su les voir. La preuve, c'est que le problème s'est posé il y a longtemps. Mais il s'est rien passé parce que les médecins en particulier n'ont jamais compris qu'il y avait un problème. Ils le savent sur les médicaments, ils font des tas d'essais, mais sur les pacemakers, tout le monde a laissé faire.
Oui, alors vous le dites, il faudrait peut-être un peu plus de formation. Il y a aussi peut-être des gens qui se sentent dépassés et pour longtemps et pour toujours finalement parce qu'ils ne sont pas nés à la bonne époque. Je pense à Gilles qui nous envoie un message sur la page de l'émission. Pensez-vous comme moi qu'il y ait des hommes prénumériques, ce n'est avant 1980 pour la France. J'en suis un et je vois bien le décalage avec mes collègues plus jeunes pour plein de détails de la vie quotidienne et bien d'autres que l'utilisation de l'ordinateur. Est-ce que cette fracture numérique, est-ce que certaines personnes sont dépassées et ne peuvent pas rattraper le train?
C'est absolument le cas et c'est pas forcément grave pour elles. D'ailleurs, heureusement, c'est tout à fait le cas. On est formé, son esprit se forme avant 20 ans essentiellement. Donc les objets qui existaient avant 20 ans sont des intrus. Mais je cite toujours le cas de cette petite fille de 10 ans qui disait, elle demandait à sa mère, « Maman, tu m'as dit que quand t'étais petite, t'avais pas d'ordinateur, alors comment faisais-tu pour aller sur Internet ?» Parce que cette petite fille ne pouvait pas ne pouvait pas envisager qu'Internet n'ait pas existé à un moment. Il n'a pas existé à un moment. Et les gens qui ont vu arriver à Internet ont été désarçonnés. Il faut se rappeler qu'ils ont déjà été désarçonnés par beaucoup de choses, l'écriture, l'imprimerie. Mais Internet, c'est peut-être encore la taille au-dessus, oui.
Ah oui, plus encore que l'écriture, Internet.
Ah bah oui, parce que là maintenant, avant l'écriture, ça a permis de faire des bouquins et de les diffuser. Mais maintenant, on a l'intégralité des bouquins du monde dans sa poche quand même.
Mais il faut encore les bouquins. Si on n'a qu'Internet.
Ah ben, pas besoin. Non, ils sont sur l'écran, les bouquins.
Non, mais ceux qui ont été écrits, les générations d'avant.
Ah, mais ils sont aussi sur Internet.
Ils le sont. Est-ce que c'est suffisamment bien enseigné, l'informatique?
Alors, ça commence, puisque ça commence à être au programme, et il y a beaucoup d'efforts. Alors, c'est officiellement au programme, en primaire et en collège, mais pour l'instant, les profs ne sont pas formés. Et il y a beaucoup d'efforts, en particulier un organisme français qui s'appelle Classcode, qui travaille beaucoup sur le primaire. Et La main à la pâte, dont on a souvent parlé ici, a fait deux livres absolument merveilleux qui s'appellent 1, 2, 3, coder, qui servent à la formation des profs et des parents, s'ils ont envie, pour apprendre l'informatique vraiment bien, avec un langage très intéressant qui s'appelle Scratch. Et puis, on apprend vraiment de l'informatique moderne, pas juste à programmer des bouts de maths.
C'est donc ce que vous répondez à Caroline, qui vous dit sur Internet, où trouver des cours d'informatique et de code pour enfants, pour leur envoyer vers Classcode.
Oui, il y a aussi beaucoup d'organisations en France, d'associations qui travaillent périscolaires, Magic Makers et d'autres, oui.
Et on peut préciser, c'est aussi un sujet qui vous tient à cœur, d'ailleurs vous en parlez dans l'introduction de votre livre et à la fin, l'informatique, c'est pas une histoire d'hommes. Vous citez le cas de deux jeunes filles, deux adolescentes qui étaient intéressées par l'informatique et à qui on a conseillé de faire autre chose parce que ce n'était pas pour elles.
Exactement. J'ai leur conseiller pédagogique ou d'éducation.
Au sein de leur école, hein, au sein de leur établissement. École,
oui.
On
mais
leur
c'est
a dit
pas du tout rare. J'ai demandé à des chercheuses en biologie du Collège de France pourquoi vous êtes toutes en biologie et personne en informatique. Elle a dit parce que ouais, l'ambiance c'est ça. On dit l'informatique c'est des geeks qui mangent des pizzas en se lavant jamais, mais c'est complètement faux.
Oui.
C'est idiot.
C'est idiot.
On peut
faire
faux.
De l'informatique quand on est une fille, quand on est
sûr.
Une femme.
Il n'y a aucune différence.
Et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à lire votre livre, L'hyperpuissance de l'informatique, paru chez Odile Jacob. Merci Gérard Berry.
Merci à vous.
Juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle affaire sensible. Aujourd'hui, les Magdalene Sisters. Merci à Julien Chabassu et Guillaume Roux qui étaient à la technique aujourd'hui. Vous écoutez France Inter, il est 15h.